Antoine Robitaille. Probablement la seule personne érotisée par la Constitution. À part vous.
Mais bonjour, Patrick Taillon.
Bonjour, Antoine Robitaille.
Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, il y a un sujet constitutionnel qui s'impose aujourd'hui, et c'est pas nécessairement le serment au roi, c'est cette loi sur la souveraineté de l'Alberta dans un Canada uni.
Oui, une loi inédite. Et on attendait quelque chose hein, pendant l'élection, Daniel Smith, pendant la course à la chefferie, pardon, du Parti conservateur. Daniel Smith avait tenu des propos tellement provocants que même la lieutenant-gouverneure de l'Alberta avait dit « Moi, je ne signerai jamais une loi avec qui défie autant l'état de droit puis l'autorité des tribunaux. »
Oui.
Alors, on était un peu impatients de voir est-ce qu'elle allait aller aussi loin que ses intentions affichées. Et il y a quand même eu, comment je pourrais dire, probablement que le ministère de la Justice de l'Alberta a envoyé ses meilleurs fonctionnaires et ses meilleurs juristes pour expliquer à Daniel Smith un certain nombre de bases en droit et tout ce volet qui s'annonçait éminemment critiquable là, de remise en question de l'autorité des tribunaux a en grande partie disparu.
OK, là, il faut que tu nous situes. Là. C'était quoi cette affaire-là? C'était parce qu'il y a...
Ben, elle disait, moi, quand il y a une loi fédérale qui nuit à nos intérêts ou que l'on considère contraire à la Constitution, on va décider, nous, en Alberta, qu'on ne la respecte pas et qu'on ne l'applique pas. Et si jamais il y a un ordre du tribunal qui nous oblige à respecter la loi en vigueur adoptée par le fédéral, ben, on ne le respectera pas non plus. Et ça, c'était manifestement contraire à l'état de droit, à la primauté du droit, à l'autorité des tribunaux. Et c'est cet aspect-là un peu qui a disparu du projet de loi qui a été déposé la semaine dernière. Okay. Mais on n'est pas tombé pour autant dans un projet de loi purement déclaratoire, là, on dirait, où on ne serait que dans de vagues principes, sans trop connaître un peu les conséquences de tout ça. On dirait qu'elle a quand même tenu dans son bras de fer, j'imagine, avec les légistes qui ont rédigé le projet de loi. Est-ce que le projet de loi a des dents, qui est une espèce de mécanisme là, pour assurer des suites à ce qu'elle voulait mettre en place?
Mm-hmm.
Et donc, grosso modo, cette mécanique, elle est un peu inédite. C'est-à-dire qu'on introduit dans le droit de l'Alberta un débat parlementaire sur les lois fédérales. Donc, quand il y a une loi fédérale qui est controversée, je ne sais pas moi, sur les armes à feu, sur une taxe carbone, sur la péréquation, là, je prends les sujets qui préoccupent les Albertains.
Oui.
Ben là, ils vont organiser un débat et là, ça s'inspire un peu du Québec. Ils vont voter une résolution. On a l'habitude au Québec de ces résolutions unanimes ou transpartisanes qui dénoncent l'action d'Ottawa. Et là, l'Assemblée législative de l'Alberta vote une résolution pour dire cette loi est soit, selon nous, contraire à la Constitution ou soit préjudiciable par rapport à nos intérêts.
Mm-hmm.
Et là où ça se démarque de l'expérience québécoise, c'est que le mécanisme de la loi sur la souveraineté de l'Alberta cherche à mettre en place des effets ou des suites à une telle résolution.
Ah, OK. Parce que nous, par exemple, il y a bien eu une motion majoritaire et non unanime là, de l'Assemblée nationale contre le rapatriement de la Constitution, par exemple. Puis
il s'applique. Il y en a eu plusieurs avant.
Il s'applique quand même.
Après,
oui, il y en a eu plusieurs depuis, mais pendant les négociations, là, je pense à.
Bien sûr. Pendant les négos, c'était pas unanime, en effet, mais c'était quand même transpartisan.
Oui.
Sur plein d'autres sujets, là, je sais pas moi, les bourses du millénaire, telle intrusion.
Mais les effets, c'est ça qui est important là, dans le cadre de notre discussion. Tu dis qu'en Alberta, ça va avoir des effets, alors qu'au Québec, c'est un peu déclaratoire.
Exactement. Mais là, les effets, c'est la grande surprise du projet de loi, parce que les effets vont beaucoup plus loin que ce que l'on anticipait. C'est-à-dire que lorsque l'Assemblée vote une résolution, ça donne un mandat au gouvernement de l'Alberta. Donc, au gouvernement, je précise, le gouvernement, c'est pas la même chose que le Parlement. Donc, le gouvernement, l'exécutif, se trouve à acquérir le pouvoir de gouverner par décret. Hein, un peu comme on l'a vécu au Québec avec l'état d'urgence, c'est-à-dire d'adopter des décrets qui peuvent parfois contredire les lois déjà en vigueur.
Ah bon?
Alors ça, c'est la grande surprise. Danielle Smith, qui est plutôt une COVIDO-sceptique, favorable au convoi des camionneurs, qui dénonce l'état d'urgence d'Ottawa, les mesures sanitaires, tout à coup, dans sa propre loi, introduit en quelque sorte un état d'urgence du fédéralisme. C'est-à-dire que si le fédéral adopte une loi qui pose problème pour l'Alberta, mais tout à coup, elle demande à son Parlement de lui donner les pleins pouvoirs, de lui donner une capacité de gouverner par décret. Et c'est l'aspect qui, en ce moment, est le plus controversé du projet de loi.
Oui, je pensais qu'elle avait reculé là-dessus. Elle avait au moins dit, elle l'a pas.
Oui.
On n'a pas vu les amendements, mais je pense qu'elle a reculé là-dessus.
Tout à fait.
Danielle
Smith. La vague de critique est tellement forte sur cet aspect inattendu du projet de loi qu'elle aurait déclaré cette fin de semaine qu'il y aura des amendements sur cet aspect-là. Bon, il y aura des amendements, on va attendre, on va les voir, mais probablement qu'il y aura, en tout cas, un mécanisme plus subtil. Mais c'est quand même assez fascinant, hein? Tant à Ottawa qu'en Alberta, on a des gouvernements qui, on dirait, prennent goût à l'état d'urgence. Là, Ottawa s'est retenu durant la COVID d'aller sur l'état d'urgence sanitaire, mais en même temps, il a réfléchi à la question. Et quand est arrivée une manifestation de camionneurs devant son Parlement, mais dit, tiens, j'ai cet outil-là, je vais l'utiliser.
Ouais.
Et là, on voit un peu la même chose en Alberta. On cherche des moyens pour donner du muscle à l'action du gouvernement. Puis on dit, ah, ben tiens, on... Alors, il y a quelque chose quand même d'assez fascinant avec cette habitude, cette dépendance qui se développe.
Et c'est paradoxal pour des gens qui dénonçaient justement l'état d'urgence sanitaire, comme Danielle Smith.
Oui. Puis ce qui est très difficile avec le projet de loi de l'Alberta, c'est de voir qu'est-ce qu'ils vont en faire véritablement.
Ouais.
Parce que le but, c'est ensuite des décrets qui vont ordonner, je sais pas moi, l'équivalent au Québec serait d'ordonner à Hydro-Québec ou à tel organisme public ou à une municipalité de poser tel geste ou de ne pas poser tel geste pour atténuer les effets négatifs d'une législation fédérale.
OK, par exemple, pensons à, je sais pas, évaluation environnementale, on pourrait demander à une société d'État albertaine de ne pas se soumettre à l'évaluation.
De peut-être pas fournir des informations ou de, en tout cas, adopter un comportement qui... Alors, c'est très difficile d'anticiper, mais il y a quand même des exemples dans notre histoire.
Oui.
Par exemple, la Colombie-Britannique son gouvernement actuel veut pratiquer une forme de décriminalisation des drogues. Et comment ils vont faire ça? Ben, c'est en cessant d'appliquer le code criminel.
Ouais.
Le Québec a, en quelque sorte, libéralisé l'avortement et l'aide médicale à mourir avant le reste du Canada, en faisant, d'une certaine manière, en disant, ben c'est nous qui gérons la police, c'est nous qui gérons les mises en accusation. Oui, le code criminel est fédéral, mais si on boude le code criminel, si on adopte une politique de résistance, en quelque sorte, à son application, on va pouvoir conduire une réforme, on va pouvoir influencer.
Ah, oui.
Sur cet exemple d'application du code criminel, on voit un peu à quoi ça pourrait ressembler la politique de Danielle Smith.
OK, mais je t'arrête deux minutes, parce que oui, dans le cas de l'avortement, Marc-André Bédard, ministre de la Justice de René Lévesque, qui avait décidé de ne pas poursuivre, mais c'est très rare, ça, qu'il y ait une loi fédérale qui soit appliquée par les provinces?
Exactement. Et donc, on peut imaginer que pour la fiscalité ou pour les normes environnementales, Ottawa a ses propres fonctionnaires et il est capable de passer par-dessus la tête de la résistance albertaine. Et donc, là, je donne l'exemple du code criminel parce que dans ce cas-là, ça pourrait marcher. Mais la vaste majorité des exemples, ça risque de ne pas marcher.
Ouais.
Ça va être difficile de voir où ça va nous conduire exactement.
Rapidement, Patrick, est-ce que c'est le Québec qui a inspiré l'Alberta, comme on dit tout le temps en Alberta, ou est-ce que le gouvernement Legault, lui, pourrait s'inspirer de l'Alberta? Je sais plus, là, c'est un peu l'œuf ou la poule.
Oui. Oui, c'est un peu des deux. On sent que nos résolutions sans suite semblent avoir inspiré l'Alberta et ils ont voulu, on dirait, trouver des moyens juridiques de donner un peu de force à ces résolutions-là. Fait qu'il y a une forme d'inspiration, mais c'est clair qu'il va falloir observer ce qui se passe en Alberta. Et là, on voit l'ex-juge de la Cour suprême, John Major, qui dit que d'après lui, ça va être constitutionnel.
Ben oui.
Il y a des amendements.
Ben oui, Danielle Smith a tweeté ça ce matin, là. Oui.
Surtout s'il y a des amendements sur l'aspect plus critiquable là, de gouvernance par décret. Si jamais ça marche, c'est clair que le gouvernement du Québec ne pourra pas en faire moins. L'objet juridique qui est devant nous est un peu trop inédit. Je pense que ça vaut la peine d'observer ce qui se passe, mais je pense qu'il y a peut-être matière à influence réciproque. Chose certaine, là où le Québec semble avoir inspiré une autre province, c'est clairement en Saskatchewan.
Ben oui, parce qu'en Saskatchewan aussi, il y a une loi de ce type-là, là.
Ils ont été un peu plus vite que l'Alberta. C'est une loi qui a été déposée au mois d'octobre. Projet de loi 88. La loi sur la Saskatchewan d'abord, the Saskatchewan First Act, et c'est une loi qui reproduit la technique employée par le gouvernement, par le Québec, avec la loi 96. Donc, on se rappelle, dans la loi Mammouth qui modifie plein de choses pour la protection du français comme langue commune et officielle, il y avait deux articles qui consistaient à insérer dans la Constitution de 1867 des nouveaux contenus.
Oui.
Pour dire que le Québec forme une nation et que le français est sa seule langue officielle. Et ça, c'était un peu inédit. Par le passé, les provinces, le Québec aussi, on avait modifié unilatéralement des normes constitutionnelles. On a le pouvoir de le faire. Ça, il n'y a rien de nouveau. Mais de le faire, je dirais visiblement, en venant réécrire ou ajouter dans le texte un peu sacré ou du moins.
C'est comme si le texte de 1867 était une sorte de Google Doc. Que le Québec était allé modifier. Là. Mais c'est un peu toi qui avais proposé ça ou un de tes étudiants,
fédéral,
non?
Oui, et le fédéral jouait dans le texte depuis longtemps. Et nous, au Québec, on n'avait pas réalisé qu'on pouvait faire la même chose. Et là, avec le projet de loi 88, la Saskatchewan imite en tout point la technique du Québec, même dans la manière de numéroter l'article qu'elle ajoute, avec peut-être une nuance près. C'est qu'elle réaffirme sa compétence en matière de ressources naturelles. Or, s'il y a une chose qui est évidente, c'est que le partage des compétences ne relève pas de la capacité de modification unilatérale. Pour modifier le partage des compétences, il faut une autre procédure.
Ouais.
Mais je pense que le projet de Saskatchewan va tenir la route parce que justement, devant les tribunaux, ils vont prétendre que ça ne change rien, que ce n'est que la réaffirmation de ce qui existe déjà. Et, et avec cette technique-là, ils risquent de s'en sortir, mais on le voit, on a une fédération qui ne fonctionne pas sur le plan de l'action constitutionnelle multilatérale.
Ouais.
Et de plus en plus, tant Ottawa, l'Alberta, le Québec, la Saskatchewan, ce qui marche dans ce pays-là, c'est des coups unilatéraux.
Donc, il y a une montée de l'unilatéralisme.
Oui, et oui, c'est un succès pour le Québec avec sa loi 96. Je pense que le truc en Saskatchewan devrait tenir la route, même si ça risque de conduire au fait que ça change rien, mais que c'est quand même présent dans le texte. Mais à long terme, si les gens qui sont authentiquement préoccupés par la santé de cette fédération devraient normalement s'inquiéter de l'incapacité de cette fédération à se parler, à se concerter, si tout ce qui fonctionne, c'est des gestes unilatéraux posés par Ottawa ou des gestes unilatéraux posés par les provinces, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne tiendra plus. Le fédéralisme suppose un minimum de coopération. Et là, on voit que notre carence de coopération, il y a une carence de dialogue de bonne foi, et tous ces gestes-là sont le reflet emblématique.
Ben oui, Pierre-Elliott Trudeau a changé la Constitution, il a avalé la clé, puis il est décédé.
Et c'est ça, il reste comme juste l'espace unilatéral.
C'est ça.
L'action unilatérale devient le seul moyen d'agir. Même Ottawa cautionne l'action unilatérale du Québec en 96, dans le serment. Trudeau a dit, ah oui, le serment, le Québec peut agir seul, parce que c'est la seule voie possible. Mais à long terme, ça peut poser des problèmes pour l'avenir du Canada que la multiplication de ces gestes unilatéraux.
Merci beaucoup, Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Et c'est ainsi que se termine La Haut sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.